Bonjour, il y a quelque temps, dans un message fort sympathique, un auditeur nous a écrit et a prétendu que le magazine Idée était, je le cite, « en quelque sorte le collège de la radio comme d'autres sons de France ». Fin de citation. C'est une comparaison trop lourde pour nous, mais qui nous va droit au cœur quand même. Cette émission dominicale ne donne pas de cours, mais vous offre en revanche la voix de ceux qui en donnent, la voix et la pensée de beaux esprits. C'est comme l'écrit aussi notre ami, une mission d'éducation populaire. Nous en sommes fiers et nous y croyons, même si ces mots ont hélas un petit côté désuet aujourd'hui. Mais RFI nous donne cette chance-là. Ces mots flatteurs m'ont incité à inviter un professeur du Collège de France, justement, avec lequel nous allons faire connaissance. Il s'appelle Carlo Ossola. Il est titulaire de la chaire de littérature moderne de l'Europe néo-latine, tout ça est au pluriel, et il vient de publier « Les vertus communes » aux éditions Les Belles Lettres, un livre précieux pour se tenir droit et heureux, sans faire de bruit, en quelque sorte. Ainsi, voici un nouveau numéro d'Idée, le magazine qui interroge ceux qui pensent le monde. Un magazine que vous pouvez retrouver sur votre moteur de recherche préféré, sur le site de la radio, www.rfi.fr, l'application RFI 100% Radio et à la page Idée de Facebook. Bonjour Carlo Ossola.
Bonjour monsieur.
Je suis très très heureux de vous avoir à ce micro. Vous êtes historien de la littérature, philologue, spécialiste de la littérature italienne. Vous avez été professeur aux universités de Genève, Padoue, Turin. Et depuis 1999, je crois, vous êtes professeur au Collège de France, cette formidable institution française où les plus grands savants partagent leurs connaissances auprès d'un public avide de savoir. Je ne peux ici citer vos travaux, tant ils sont nombreux en italien ou en français. Je mentionne quand même Erasme et l'Europe, publié en 2014 aux éditions du Félin, Fable d'identité pour retrouver l'Europe au PUF en 2018, et celui-ci dont nous allons parler, Les vertus communes aux belles lettres. Carlo Ossola, permettez-moi de vous poser une question sur l'intitulé de votre chaire de littérature moderne de l'Europe néo-latine. Ça couvre quelle littérature? Parce que la littérature est au pluriel.
Oui, je vous remercie pour cette question qui me permet déjà d'exposer quelle est un peu ma perspective aussi sur le passé que sur le temps présent. Littérature moderne dit bien qu'il s'agit de la modernité qui commence à l'époque de l'humanisme et de la Renaissance, c'est-à-dire au XVe et XVIe siècle. Et Europe néo-latine veut couvrir non seulement les langues, les cultures qui émanent au point de vue linguistique du latin, mais aussi avec le sens néo-latin, les grands savants qui, à l'époque de l'humanisme ou de la Renaissance, ont voulu, par le biais du latin, retrouver une espèce d'identité universelle au-delà des origines linguistiques vulgaires et même au-delà des religions. C'est le cas, par exemple, d'Erasme, de Thomas More, enfin de tous ces savants qui ont voulu retrouver une sorte de koiné sans frontières. Et c'était mon idéal au moment même où le Collège de France avait commencé, avec les chaires européennes, à inviter des savants qui représentaient ce nouveau esprit élan européen, par exemple Umberto Eco, Bronislav Geremek. Enfin, c'était un moment où l'Europe se pensait sans frontières, et c'est à ce type d'espoir que mon enseignement aurait voulu contribuer. Après, il y a eu toutes les crises que vous savez de la conscience européenne, comme Paul Hazard l'aurait dit, mais me semble-t-il, néanmoins, cet élan reste. Et j'espère que cet espoir continuera.
En pleine crise, nous l'espérons tous, Carlo Ossola. Donc cette chaire a été créée pour vous, en quelque sorte, au Collège de France. Alors je n'oublie pas, et on va peut-être commencer cette émission avec vous, que vous êtes un spécialiste de Dante et que vous avez publié une introduction à la Divine Comédie aux éditions du Félin dans la collection Les Marches du Temps. Je voudrais que vous nous parliez de la Divine Comédie, qui est un texte ô combien mystérieux, qui est un monument de la littérature européenne précisément et de la littérature mondiale, et de son auteur Dante Alighieri, qui est resté aussi dans l'histoire de la littérature. Là, nous plongeons dans l'époque du XIVe siècle, XIIIe, XIVe siècle avec
lui. Oui, exactement. D'après ce qu'on peut imaginer, parce que nous n'avons pas des données...
C'est peu de choses sur lui.
D'archives ouais. Sur Dante, même pas une signature. Dante serait né en 1265, parce qu'il dit dans son poème, dans la Divine Comédie, que le poème commence au milieu du parcours de notre vie. Cette date est fondée sur le psaume qui dit « La vie de l'homme est normalement 70 ans, maximum 80 ». Alors, en divisant en deux, ça vous donne 35. Le poème est imaginé se dérouler dans l'année 1300. C'est pourquoi on a dit « Bon, il est né en 1265 ». Mais on sait rien.
Ah, c'est comme ça qu'on a fixé la date
oui,
de
oui, oui. La seule date certaine, c'est la date de sa mort, le 14 septembre 1321, ce qui fait que dans deux ans, nous aurons le septième centenaire de sa mort. C'est un Florentin vite exilé qui a passé la suite de sa vie d'abord à Vérone et puis à Ravenne où il meurt. Et d'autre part, c'est quelqu'un qui, même avec une expérience biographique qui paraît si limitée dans l'espace, il a pourtant connu, ou bien directement ou par ses lectures, toute l'Europe. On imagine, à juste titre, qu'il a été à Paris soumettre ses thèses, Quod libetales à la Sorbonne, et nous avons même un auteur français dans les proscrits, Balzac le met en scène comme quelqu'un qui présente ses thèses, rencontre Siget de Brabant, là c'est un anachronisme, mais Dante est devenu rapidement aussi un auteur français, à tel point qu'aujourd'hui nous avons dans les librairies au moins 7-8 traductions de la Divine Comédie. On n'a pas le même cas pour Shakespeare, c'est pour dire comment Dante est universel, et c'est en même temps un poète, un philosophe, le banquet, un vrai traité de philosophie, un linguiste, par exemple, le De Vulgari Eloquentia est un traité sur les langues vulgaires, c'est un théologien, c'est un homme aussi de militant, il a voulu être vraiment s'engager dans la vie politique de Florence, il a payé tout ça.
À l'époque où la ville était divisée entre les partisans de l'empereur et les partisans du pape.
Oui, hein, il était du côté de l'empereur. Oui. Et ceci lui a valu évidemment l'exil, et c'est aussi la fascination de sa biographie, parce que les poètes du XXe siècle l'ont pensé vraiment comme le modèle des grands exilés. D'une certaine manière, nous pourrions dire que Dante est un auteur du XXe siècle. Et moi, j'espère qu'il le sera aussi pour le XXIe siècle. Je vois déjà venir des nouvelles opéras dans la musique, des représentations théâtrales. Telle est la force, je dirais, de ce grand penseur. Donc, c'est plutôt, comme Mandelstam le disait, un ouvrage à venir.
Oui, toujours un ouvrage à venir, à redécouvrir. Alors, ouvrage très étrange, c'est un voyage que Dante fait, d'abord en enfer, ensuite au purgatoire et enfin au paradis, sachant que ces trois situations sont très différentes les unes les autres dans la forme.
Tout à fait. D'abord, la géographie de Dante est vertigineuse. Il imagine que l'enfer soit le puits dans lequel Lucifer
est tombé
et il a creusé la terre. Et de l'autre côté de ce puits, la terre qui est, disons, écartée, va constituer la montagne du purgatoire.
Ça fait une bosse qui est devenue une montagne
oui,
du purgatoire.
Exactement, ouais. Exactement. Et cette montagne du purgatoire est aux antipodes, mais Dan ne se contente pas de mettre, pour ainsi dire, en opposition la terre de l'enfer et la montagne du purgatoire, mais au sommet du purgatoire, il instaure le paradis terrestre que les hommes ont quitté, dont le paradis terrestre est vide, et à partir du paradis terrestre, on monte au ciel, ou plutôt aux cieux, parce qu'il y a d'abord les planètes connues à l'époque, puis il y a le ciel des étoiles fixes, puis il y a l'Empyrée, puis il y a le mystère de la Trinité. C'est un poème en même temps vertical, universel, c'est une cosmologie. Bien sûr, on dit toujours qu'il y a des sources, oui, mais les sources de Dante sont, pour ainsi dire, sur un espace plat. Il y a le voyage au paradis de Saint Brendan, mais c'est un voyage fait en bateau, etc. Il y a le miracle de Mahomet, oui, là c'est une montée au ciel, mais il n'y a pas les enfers. La seule machine complète de tout ce qu'on peut imaginer, c'est ce poème. Et même Jacques Le Goff a pu remarquer que Dante est le premier qui constitue définitivement le purgatoire.
Oui, parce qu'il a écrit la Divine Comédie, il a parlé du purgatoire au moment où on inventait le purgatoire.
Exactement. Dante. Exactement. D'une certaine manière, le purgatoire répète, je dirais, en relief ce qui est puni en creux dans les enfers.
Oui, parce que dans les enfers, on descend, on plonge, jusqu'à Lucifer qui est d'ailleurs dans la glace, comme situation. Pour le purgatoire, on gravit avec Dante une montagne qui nous amène au paradis. Et le paradis, la troisième partie, c'est on vole.
On vole, oui, tout à fait. Il faut aussi ajouter que cette naissance du purgatoire, à mon sens, est la vraie naissance de la modernité. On sort définitivement du manichéisme. Ici les damnés, ici les gens qui ont finalement obtenu ou gagné le salut. Et il y a ce royaume intermédiaire où il y a une espèce de commerce entre les vivants et les morts, parce que les vivants peuvent prier pour les morts, peuvent les aider, réduire le temps de ce jour au purgatoire. Et il y a l'épisode très émouvant de Bellarqua, qui a été l'un des personnages les plus chers à Beckett, lequel est assis, les bras sur les genoux. Dante lui dit, mais pourquoi tu restes là? Il se connaissait. Il me dit, mais personne ne prie pour moi. À quoi bon monter si je ne peux rien faire? Voyez? Donc c'est quelque chose qui établit une espèce de dynamique, et il n'y a plus cette espèce de manichéisme que la tradition occidentale a malheureusement connu. Ici les bons et là les mauvais. Non, il n'y a pas seulement le blanc et le noir, il y a toutes les, je dirais, les nuances du gris.
Du gris, exactement. Carlo Ossola, dans cette Divine Comédie de Dante, il y a donc ce voyage itinéraire et il y a une géographie à suivre, et l'on connaît plus ou moins les fameux cercles de l'enfer, il y en a 9 je crois, que le personnage Dante, accompagné d'abord de Virgile, doit traverser.
Oui, là
c'est le fameux cercle de l'enfer.
Les cercles de l'enfer, et puis il y a vraiment le puits. Vous évoquiez tout à l'heure, à juste titre, pourquoi Lucifer est dans la glace. Eh bien, parce que la glace est le maximum de manque d'amour. L'amour chauffe, et le manque d'amour nous refroidit. Et donc Lucifer, qui est le mal absolu, le manque d'amour absolu, est dans la glace. C'est une invention de Dante extraordinaire et qui me semble montre bien le fait que, au point de vue, si vous voulez, aristotélicien, Dante est plutôt du côté de l'amour dynamique et pas de l'amour de contemplation. Il y a toujours à monter, toujours à faire, toujours à s'engager, toujours à se battre. C'est plutôt là vraiment une, je dirais, une preuve de l'adhésion de Dante au thomisme aristotélicien.
Ce texte n'est pas facile d'accès, c'est même un texte assez difficile à lire, mais on est saisi, dès la première lecture quasiment, Carlo Sola, d'effroi quand on entre avec Dante dans l'enfer.
Oui.
Les flammes, les morts, les cadavres, les odeurs, c'est quelque chose de très très puissant.
Et violent.
Et violent.
Et violent, oui. Je dirais, d'une certaine manière, que le reste du poème est fait pour payer la dette de cette mise en scène si cruelle. Il y a des gens qui sont complètement coupés en deux et qui montrent leurs entrailles. Il y a des gens qui marchent en tenant dans la poignée et par les cheveux leur tête. Il y a des gens qui sont piétinés par les pieds de Dante parce qu'ils sont immergés totalement dans la glace. Il y a des gens qui sont fouettés. Il y a des gens sur lesquels tombe la pluie de feu. Enfin, toutes les tortures qu'on pourrait imaginer sont là. Et donc, à juste titre, Dante a dû, après, consacrer deux royaumes successifs de plus en plus, je dirais, fins, subtils, harmonieux, pour, je dirais, se libérer de cette espèce de boue qu'il ramasse à l'enfer. Du reste, quand il arrive au pied de la montagne du purgatoire, Virgile est obligé de lui déterger, de lui nettoyer le visage, parce qu'il est complètement noir. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans cette mise en scène.
Et effectivement, on a besoin des deux textes sur le purgatoire et le paradis pour se remettre de cette plongée dans l'enfer. Est-ce que je peux me permettre, Carlo Sola, de vous demander de lire un extrait de la Divine Comédie, et notamment le tout début, c'est-à-dire l'entrée en enfer.
Oui, voilà. L'entrée en enfer, à savoir au chant 3, c'est-à-dire après le préambule. La Divine Comédie est formée de 100 chants, un chant de préambule, et puis 33 pour chacune des cantiques. 33 pour l'enfer, pour le purgatoire et pour le paradis. Donc, après le préambule sur lequel on va peut-être revenir, la vraie entrée est au chant 3, et là, c'est très solennel. Par moi, on va dans la cité dolente. Par moi, on va dans l'éternelle douleur. Par moi, on va parmi les gens perdus. Justice a mû mon sublime artisan, puissance divine m'a faite, et la haute sagesse est le premier amour. Avant moi, rien n'a jamais été créé qui ne soit éternel, et moi, je dure éternellement. Vous qui entrez, laissez toute espérance.
Cette phrase,
c'est
cette
la
phrase
porte de l'enfer. Dès qu'on la franchit, il faut laisser toute espérance d'en sortir. Donc, c'est comme si les auteurs même, l'auteur Dante et son maître Virgile, entraient pour ne plus sortir. Donc, c'est quelque chose de tragique, d'une certaine manière.
Ouais. Et pourquoi voulez-vous insister sur ce chant numéro 1, qui est en fait le tout début de cette Divine Comédie ? Est-ce que je peux aussi vous demander de lire les premiers
vers ? Mais volontiers. Alors, la traduction est la traduction de Jacqueline Risset. « Au milieu du chemin de notre vie, je me retrouvais par une forêt obscure, car la voie droite était perdue. À dire ce qu'elle était est chose dure, cette forêt féroce et âpre et forte qui ranime la peur dans la pensée. » Alors, vous voyez, on a ici tout. Hein. Il y a, au milieu du chemin de notre vie, imaginons 35 ans, la forêt obscure, donc la détresse, on a perdu le droit chemin, on ne sait plus où il faut s'adresser. Et là surtout, le dernier vers que j'ai lu, cette forêt féroce et âpre et forte qui ranime la peur dans la pensée. Donc nous apprenons que Dante écrit après coup, mais que cette expérience a été si forte que tout revient à l'esprit dès qu'il y pense. Et c'est important parce que pour le paradis aussi, il faut rappeler contre ceux qui pensent qu'il s'agit d'une expérience directe et presque mystique, que là aussi le paradis est écrit après coup et que tout ce qu'il peut, Dante, nous rapporter, c'est la mémoire faible de ce qu'il a vécu. Donc c'est en même temps un poème d'expérience, un poème de mémoire, mais aussi un poème mélancolique. Il est plus là, il a plus le bonheur de la vision céleste. Il est restitué à la terre où il est exilé, et à l'époque, n'importe quel, je dirais, voyageur pouvait assassiner, tuer celui qui était exilé parce qu'il avait plus de droits. Et Dante le dit à un moment, il dit, j'ai vu combien de corps, c'est quelqu'un qui sait très bien d'être dans une condition très fragile. Et puis deuxième aspect, il faut aussi dire, et là c'est un caractère encore une fois français de la Divine Comédie, qu'à l'origine, dans le chant suivant, Dante fait dire à Virgile que une dame au paradis, c'est-à-dire la Vierge, mais on ne peut pas prononcer le nom de la Vierge à l'enfer, a envoyé une autre dame, c'est-à-dire Lucie, à laquelle Dante était très fidèle, qui envoyait Béatrice, qui envoyait Virgile. Donc, nous attendons, à partir de ce chant, que les guides successives soient les mêmes. Tout ça, c'est vrai, sauf que la dernière n'est plus Lucie, mais Saint-Bernard. Donc, Dante, à la fin, pour mieux peut-être contempler la Vierge, choisit le champion de la Vierge, c'est-à-dire Saint-Bernard, l'ordre cistercien, donc une tradition, pour ainsi dire, française, et il remplace cette Lucie qui n'a plus qu'un très modeste rôle dans la Divine Comédie.
Alors, il y en a une qui a un rôle important et qui est au cœur de cette Divine Comédie, c'est Béatrice, en revanche.
Tout à fait. Il y a même un grand auteur américain, Charles Singleton, qui a écrit un livre qui a été fondamental, Voyage à Béatrice, comme si toute la Divine Comédie était un voyage à Béatrice. En réalité, c'est un voyage à la Vierge, parce que Saint Bernard aborde le dernier chant avec une prière à la Vierge pour plaidoyer pour son fidèle afin qu'il puisse voir le mystère de la Trinité. Béatrice s'en va, Borghese l'a dit d'une manière admirable, quelques chants avant, Dante la contemple disparaître dans les cieux, donc on peut pas dire qu'il s'agit vraiment d'un voyage à Béatrice, même si Béatrice l'accompagne pendant la montée au paradis.
Oui, il accompagne dans le ciel, comme l'a représenté la peinture de l'époque, Carlo Ossola. Je voulais donc qu'on évoque cette Divine Comédie qui a traversé les siècles et qui a même inventé en français le mot dantesque.
Tout à fait, oui. Je dirais que la France est la mieux placée pour comprendre Dante. D'abord parce que l'un des traducteurs a vécu comme Dante, c'est-à-dire l'amenait. Lamennais a été, je dirais pas exilé, mais certainement mis aux marges de l'Église, et son dernier ouvrage, comme s'il habitait même l'esprit de Dante, a été la traduction de la Divine Comédie. Puis il y a eu ce poème fondamental de Victor Hugo, sur un exemplaire de la Divine Comédie, où il imagine un peu de vers que l'évolution humaine commence, et c'est vraiment le premier grand poème sur l'évolution au sens darwinienne, avec les pierres, puis les forêts, puis les lions, puis l'homme, et cet homme s'appelle Dante. Donc Dante est l'exemplaire même de la nouvelle théorie de l'évolution, et puis évidemment les proscrits. Nous avons, puis les grandes illustrations de Doré, je dirais que d'une certaine manière, Dante est aussi un grand auteur français.
Alors nous allons quitter Dante, j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler dans les mois et les années qui viennent avec vous Carlo Ossola, parce que vous préparez une édition de la Divine Comédie qui sera publiée bientôt, dans 2 ans à la bibliothèque de la Pléiade, et vous préparez un autre texte l'année prochaine, on aura l'occasion j'espère d'en reparler. Je voudrais que nous continuions notre conversation avec vous Carlo Ossola, et que nous parlions de ce dernier livre que vous venez de publier aux éditions Les Belles Lettres, les vertus communes. Qu'est-ce qu'une vertu commune? Il y aurait les grandes vertus et les vertus communes, les petites vertus.
Oui, tout à fait. Il y a les grandes vertus. Ça s'est établi depuis des siècles, c'est-à-dire dans notre monde occidental qui est quand même marqué par la chrétienté. Il y a d'abord les 3 vertus théologales. Je prends simplement le schéma de saint Thomas d'Aquin qui a, je dirais, fixé ce système. Alors d'abord, donc, la foi, l'espérance et la charité, sur lesquelles Dante est interrogé au paradis. paradis, et c'est précisément les champs que Marx cite. Donc, ça appartient à tout le monde. Hein. Après, il y a les vertus, je dirais, stoïciennes, c'est-à-dire la force, la tempérance, la prudence et la sagesse. Et puis, l'Église avait ajouté les vertus, je dirais, de miséricorde corporelle et de miséricorde spirituelle. Par exemple, aller voir les prisonniers, nourrir les gens qui ont faim, mettre des vêtements pour ceux qui n'ont pas de vêtements, ça c'est la miséricorde corporelle. Enfin, tout ça vous donne déjà 21 vertus, c'est déjà beaucoup. Mais moi,
ça t'en dirait que c'est trop.
C'est trop, oui, c'est trop. Alors je me suis tenu aux vertus les plus petites que chacun d'entre nous peut exercer presque sans être vu, et qui devrait, à mon sens, rendre un peu moins compliqué, un peu moins rude, notre expérience quotidienne. Nous sommes, malheureusement, j'ajoute, dans une société qui valorise le succès. Le succès n'est pas neutre. Quelquefois, se fait non pas dans la reconnaissance commune, mais dans la bataille, dans la bagarre, dans la compétition.
Souvent,
il y a toujours des gens qui gagnent, il y a des blessés, il y a des gens qui restent aux marges, qui sont écartés. Et je trouve que la perte d'énergie, de ressources, d'intelligence pour la société est trop grande pour laisser passer les choses comme ça. Donc j'ai pris des vertus, on dirait en français, d'entre-gens, c'est-à-dire de circulation.
Voilà un beau mot aussi, l'entre-gens,
un mot qui
a disparu, l'entre-gens. On va en parcourir quelques-unes. Il faut lire ce petit traité des vertus communes, Carlo Ossola. Arrêtons-nous un instant, par exemple, sur l'affabilité. Alors, vous mêlez les analyses littéraires, philosophiques, qui sont propres à votre expertise, Carlo Ossola, mais vous ajoutez des petites anecdotes qui permettent de bien comprendre. Par exemple, le chapitre consacré à l'affabilité commence ainsi. « Le vol Air France est plein. On fait la queue, comme d'habitude, dans le couloir de la cabine. J'arrive à ma place, au fond de l'appareil, mais elle est occupée par une hôtesse de l'air élégante et impassible. » Il me semble, madame, que c'est ici que je dois m'asseoir. C'est pour cette raison, monsieur, que je vous attendais.
Oui, c'est complètement vrai. J'ai pas inventé une anecdote, ça me reste figé. J'espère même que cette dame merveilleuse m'écoute en ce moment, parce que ça a été une leçon d'une extrême finesse. Tout le monde se pressait. Pour des raisons, je crois, de sécurité, il y a toujours une hôtesse en avant, une hôte en avant et l'autre en arrière. Et elle a vraiment démonté mon impatience avec ce sourire, avec ce geste de finesse. Pour moi, ça a été l'une des plus belles leçons de ma vie. Et c'est pourquoi ça reste dans l'affabilité, parce que c'est la première des vertus sociales. Aristote disait que l'homme est un animal sociabile, c'est-à-dire un animal de société. Et si on n'arrive pas à prendre, comme Cicéron nous le montre, ces vertus de société, ben on n'avance pas. Et donc, il fallait commencer par, je dirais, la base même. Ou bien on sait parler avec le reste des hommes qu'on rencontre, ou bien il faut se taire.
C'est un choix d'autant plus pertinent que nous sommes dans une époque où l'arrogance a la vie belle. Or, l'affabilité, c'est le contraire de l'arrogance.
Oui, tout à fait. C'est pourquoi j'ai pris comme premier modèle les minima moralia d'Adorno. Adorno prend des petits exemples pour sortir... ça c'est son pari extraordinaire. Il ne mythise pas dans ce livre l'énorme détresse, la lourdeur de la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale, avec toutes les exterminations, les camps nazis, etc. Il est allemand, lui. Et il prend des signes plus modestes. Par exemple, frapper avant d'entrer. Il faut pas tout de suite mettre la main sur la poignée, entrer, s'annoncer, etc. Il faut attendre. Et cet exemple est ce qu'il propose pour sortir de la lourdeur de cet héritage. Et ça m'est resté vraiment à l'esprit comme un geste apparemment simple, mais qui suppose au moins deux éléments. Le premier, le respect de l'autre, qui est de l'autre côté de la porte. Deuxièmement, l'attente. On ne peut pas faire suivre à notre désir l'action. Entre le désir et l'action, il y a l'attente, c'est-à-dire le calcul de tout ce qui peut arriver. Et je crois que c'est ce qui manque à notre société, qui devient de plus en plus pavlovienne, si je peux me permettre, c'est-à-dire à tel reflet, telle action, à tel désir, telle action, et on a perdu tout l'élément intermédiaire qui est fait de prudence, si on veut aussi de calcul, d'attente, d'écoute, et je dirais aussi de bilan des probabilités. Bon, maintenant on est devenu un peu trop des animaux directs. On avait essayé dans les siècles précédents de sortir de notre condition d'animaux, et maintenant on y entre à plein pied.
On y retourne.
Voilà.
Carlos, là, continuons à parcourir ces 12 vertus. On va pas encore une fois toutes les citer, mais arrêtons-nous cette fois sur la bonhomie. Vous dites que c'est la plus fragile des vertus communes, la bonhomie.
Oui, c'est une remarque que Leopardi faisait déjà au XIXe siècle, en se demandant dans son Zibaldone, c'est-à-dire dans son recueil ou journal quotidien, mais comment se fait-il que des termes qui ont été si importants dans la tradition grecque et latine, c'est-à-dire euetses, homme bien élevé, de bonnes mœurs, sont devenus maintenant si peu aimés, si méprisés même, la bonhomie signifiant, à l'époque et aujourd'hui, le signe de quelqu'un qu'on peut facilement tromper, qu'il est trop simple, quelqu'un qui n'a pas de ruse, etc. Et se demander pourquoi il y a eu ce changement de mœurs. Et c'est vrai que si on fait trop de calculs, je viens de dire qu'on n'est plus dans l'attente, on n'est plus prudent, mais c'est vrai aussi que si on fait trop de calculs, si on n'a pas ce geste primaire de la confiance en autrui, eh bien, on devient petit à petit des guerriers avec des armes sur nous. Mon collègue Serge Haroche, qui a aussi prix Nobel de la physique, avait dit un jour au collège, a juste raison, que nous sommes passés d'une société de la confiance à une société de la défiance. La bonhomie est une espèce de remède à la défiance.
Alors il y a une vertu commune, je reprends votre terme, Carlo Sola, que vous aimez et que vous préférez, c'est la franchise.
Oui, oui, oui. Alors,
une vertu juvénile, ardente, garibaldienne, dites-vous.
Oui, oui.
Garibaldi.
Oui, en italien, c'est schiettezza, et on le dit aussi bien pour la franchise que pour la qualité du vin pur. Ah. Un vino schietto, c'est un vin qui n'a pas été trafiqué, vous voyez. Donc, c'est dans ce sens-là que la franchise est une vertu juvénile, garibaldienne. C'est un terme que Garibaldi utilise souvent, mais c'est aussi quelque chose de direct, c'est-à-dire, à mon sens, quelque chose de nécessaire si on veut sauvegarder l'authenticité du rapport entre les personnes. On ne peut pas passer toute la journée à être diplomate. Il faut qu'il y ait un moment de, je dirais, de détente, d'ouverture, d'épanouissement. Et l'épanouissement se fait en donnant confiance et en parlant franchement.
Alors, on pourrait parler de la gratitude, mais vous dites que c'est un sentiment qui est une vertu qui est de plus en plus difficile parce que elle est presque un fardeau, cette gratitude, parce que avoir de la gratitude, c'est avoir une reconnaissance envers l'autre.
Oui, c'est reconnaître des dettes. Et aujourd'hui, on a commencé par les universités. Je fais autocritique pour le peu que je peux faire, c'est-à-dire qu'on a transformé les dettes en crédits. Et les jeunes sont habitués à obtenir des crédits. Alors, quand on est élevé dans la conscience du crédit, on pourra très difficilement reconnaître des dettes. dette. Alors que nous, on était habitués par toute une pédagogie qui remonte déjà au XVIe siècle à reconnaître nos dettes, à essayer de monter des petits nains que nous sommes sur les épaules des géants, à reconnaître que toute la vie est un examen qu'on peut passer mais ne pas passer également. Alors que maintenant, cette culture des crédits est, je dirais, catastrophique.
C'est l'orgueil qui nous empêche souvent d'avoir de la gratitude.
Oui, c'est l'orgueil, c'est aussi la difficulté de manifester cela. On ne peut pas aller chez quelqu'un qui nous a bénéficié en disant « bon, bravo, je te salue, maintenant, dans 5 minutes, j'ai un train ». Ça demande là aussi une approche du temps, une attitude de réserve et en même temps d'attention. On a de moins en moins d'attention à nos dettes. On n'a plus d'attention à nos crédits, si on a des crédits. Hein. Ouais. Moi, je suis très sceptique sur ça, mais enfin.
Si nous parlions un instant de l'urbanité, Carlos Sola, là, autre anecdote qui ouvre le chapitre consacré à cette vertu. En raison d'une grève de métro, je suis en retard à un rendez-vous avec le prix Nobel de physique Pierre-Gilles de Gennes. Je frappe à la porte de son bureau, entre et m'excuse essoufflé. « Vous n'avez pas à vous excuser, dit-il, c'est plutôt moi qui dois vous remercier de n'avoir pas interrompu le fil d'une démonstration. Asseyez-vous donc. » C'est ça l'urbanité.
Oui, oui, oui. C'est l'un des souvenirs les plus beaux, les plus touchants de mon expérience de visite, comme on le dit, au Collège de France. C'est-à-dire qu'on doit être reçu par chacun des professeurs en service à ce moment-là. Et en effet, il y avait eu une grève de métro. J'arrive avec un quart d'heure de retard. Je frappe, comme Adorno le dirait. J'attends la réponse. J'entre. Bien sûr que j'étais essoufflé. J'étais évidemment aussi très gêné. Et Pierre-Gilles de Gennes, qui était un homme merveilleux, vraiment d'une grande finesse d'esprit. Vous voyez toutes ces démonstrations sur le sable, tout ce soin pour la pédagogie. C'est un homme vraiment du petit détail, m'a donné cette leçon d'urbanité, à savoir restituer à l'autre la possibilité de parler au même niveau. Et ça, c'est très difficile, surtout quand on a, je dirais, toute la renommée qu'il pouvait avoir, quand on sent la différence de niveau. Le grand geste est de mettre son interlocuteur au même niveau pour faire un discours entre pairs. Et là aussi, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, il est difficile d'obtenir et même de mettre en place, puisque la première chose qu'on va mettre sur scène, c'est le poids différent que chacun a dans son rôle.
Oui, oui. Alors, continuons. On arrive à la dernière de ces vertus, qui est la générosité, sur laquelle on va s'attarder. Vous parlez de la placidité également, de la prévenance et de la constance. Et vous dites que finalement, ça ne devrait pas être une petite vertu, mais une grande vertu, la constance. C'est-à-dire le courage.
Oui, et le fait que la constance est le remède, pour ainsi dire, à ce que chacun devrait exercer chaque jour. Moi, je viens d'une école qui disait que la meilleure critique est l'autocritique. Mais si on passe tout le temps à se autocritiquer, on se détruit. Donc, il faut qu'il y ait l'autocritique qui va choisir, en mettant à l'écart ce qui, dans les hypothèses de travail, n'était pas bon, les 2 ou 3 points fixes, et puis il faut avoir la constance, précisément, pour les suivre. Même contre le temps, et il y a une image magnifique de l'ancien président de l'ONU, Dag Hammarskjöld, qui disait il a eu une telle constance et une telle foi qu'il ne s'est pas tourné pour voir si d'autres le suivaient. Mmh. Voilà, ça c'est l'élément fondamental de la constance. Hammarskjöld l'a fait jusqu'au sacrifice, parce que il est clair qu'il a été tué.
Hein, on en a parlé dans cette émission, figurez-vous, hein, au Congo. Et d'ailleurs, il est présent dans votre œuvre d'Aga Hammarskjöld. Vous l'avez traduit et vous y faites souvent référence.
Ouais, je l'ai pas traduit parce que j'ai pas une compétence. Enfin, je l'ai préfacé, refait les notes. Ouais. Oui, ça a été comme Adorno, l'un des grands point de référence de ma formation et il l'est toujours.
Bon, continuer un peu sur la constance, vous dites que la constance est plus tournée et favorable à l'amitié qu'à l'amour.
Oui, oui, ça c'est une, je dirais, l'héritage classique. L'amour qui prend est une passion.
La fulgurance.
Voilà. L'amour qui reste fidèle est évidemment l'un des fruits de la constance. Et chez Boccace, nous avons des exemples extraordinaires, comme Federico degli Alberighi. On n'a pas besoin, dans cet amour constant, de savoir si l'autre nous suit. Il y a des amours absolus qui n'ont pas besoin de cette petite récompense qui est de voir si l'autre nous accompagne ou pas. Bon, c'est un peu évidemment à la limite, mais ça montre bien que entre la passion et la constance, les classiques, même pour l'amour, choisissaient la constance.
C'est une vertu à redécouvrir, la constance, dans une époque où tout va vite, où beaucoup, où les choses changent, où les attirances sont nombreuses, être constant.
Oui, là aussi, une grande responsabilité est au fait qu'on a abandonné la calligraphie, c'est-à-dire la constance d'écrire la lettre lisible. Il y a des passages merveilleux de Roland Barthes là-dessus, sur cette constance de celui qui doit recopier le copiste, la constance du copiste. Nous, on n'est pas toujours des grands inventeurs, de grands écrivains, mais il faut au moins, pour respecter l'histoire, le vécu dont nous sommes les héritiers, d'être des bons copistes. Donc la calligraphie, à mon sens, était le premier grand exercice de constance. Et moi, je ne regrette pas d'avoir commencé mes écoles tard, d'avoir passé une année à faire, parce que j'avais un ancien maître, de la calligraphie. Ça reste un bonheur extraordinaire.
Et même pour écrire aujourd'hui, les pleins et les déliés ont disparu, d'autant que l'écriture est en voie de disparition également. On tape sur
un
clavier.
Oui, alors que l'écriture, mon maître me disait, mais je le retrouvais chez Roland Barthes, est une caresse. Il ne faut pas gratter le papier, il ne faut pas non plus faire, comment dirais-je, une espèce de travail de sculpture. Il faut passer doucement et continuer. Oui.
Alors terminons, Carlo Ossola, à propos de ces vertus communes. Et encore une fois, ce livre est précieux. Il faut absolument le lire aux éditions des Belles Lettres. C'est presque un petit livre de poche. Il est très accessible. Il faut terminer avec la générosité parce que il y a finalement plusieurs types de générosité et vous expliquez que vous êtes passé d'une générosité à l'autre, en quelque sorte de la générosité des héros de votre enfance à la générosité d'un homme adulte.
Oui.
Avec d'autres références.
Oui, j'ai pris deux modèles pour ne pas être trop autobiographique. Le premier est le modèle de Geppetto dans Pinocchio de Collodi, c'est-à-dire cette sorte de père adoptif, c'est pas le père naturel d'un morceau de bois, mais qui est très pauvre et qui donne tout, y compris son veston, pour essayer d'acheter les livres ou même les cahiers d'écolier pour son fils adoptif qui est très peu reconnaissant. Et c'est toute une initiation à la générosité vue par bonhomme de... Là aussi, la bonhomie s'exerce. Et qui est le protagoniste secret de ce volume. Et j'arrive à la fin avec une chanson magnifique de Leonard Cohen, I Was a Stranger, qui a été relancée, pour ainsi dire, par Robert Altman.
Alors je vous propose, on va en parler juste après, d'écouter quelques paroles de cette chanson de Leonard Cohen.
It's true that all the men you knew were dealers who said they were through with dealing every time you gave them shelter. I know that kind of man. It's hard to hold the hand of anyone who's reaching for the sky just to surrender. Who is reaching for the sky just to surrender. And then sweeping up the jokers that he left behind, you find he did not leave you very much, not even laughter. Like any dealer, he was watching for the card that is so high and wild, he'll never need to deal another. He was just some Joseph looking for a manger. He was just some Joseph looking for a manger. And then leaning on your windowsill, he'll say one day you caused his will to weaken with your love and warmth and shelter. And then taking from his wallet an old schedule of trains, he'll say, I told you when I came I was a stranger. I told you when I came I was a stranger.
Carlos, alors pourquoi avez-vous voulu faire référence à cette chanson magnifique de Leonard Cohen pour parler de la générosité?
Oui, et il y a deux éléments que nous avons écoutés dans ce magnifique anglais de Leonard Cohen. D'abord, il dit « J'étais comme un petit Joseph en cherchant une mangeoire », c'est-à-dire une crèche pour abriter le nouveau-né, dont lui aussi a un père adoptif. Ça, c'est le premier élément.
Donc, c'est la générosité du père adoptif.
Oui, la générosité de quelqu'un qui n'aura jamais de retour, qui ne pourra jamais dire, voilà, le fils aimé dans lequel je me suis contemplé. Hein. Et ça, c'est le premier élément. Et puis, le deuxième, qui est encore plus important, c'est dans le refrain, « Je connais ce genre d'homme, il est difficile de tenir la main de celui qui ne veut accéder au ciel que pour se rendre. Mmh. » Alors, là, il y a une générosité supplémentaire, c'est-à-dire la générosité de quelque chose qui est non seulement sans retour, mais qui est vraiment, on le dirait dans les aspects mondains, une défaite pour se rendre. Et c'est un peu la continuité d'un livre précédent que j'avais fait, En pure perte, le renoncement et le gratuit, où la perte que nous constatons chaque jour, nous perdons des énergies, nous perdons des batailles, nous perdons quelquefois des paris, etc. Enfin, notre vie est plutôt en perte, hein. Mais ce qui compte n'est pas le fait de perdre, mais de se rendre à quelque chose de digne. Il faut renverser la perspective. C'est pourquoi il ne faut pas calculer la perte, mais calculer la pureté. On peut perdre, mais ce qui compte, c'est la pureté de se rendre. Hein. Cette idée de se rendre à quelque chose de digne. Voilà. Donc c'est une, si vous voulez, une générosité supplémentaire qui n'attend plus rien comme retour. C'est aussi dans un livre que j'évoque dans En pure perte de Peter Handke, dont le prix Nobel, c'est le Don Juan à Port-Royal. Le Don Juan à Port-Royal, il a passé la vie à faire des conquêtes amoureuses de toutes sortes, et puis il se rend là, Port-Royal, la dernière dame qu'il a connue, une dame un peu folle, un peu abandonnée. Il l'accompagne au service dans une église réformée de Suède. Il ne sait même pas son nom. Et il voit qu'elle est complètement désemparée, pauvre, etc. Et c'est la dernière conquête, c'est la conquête justement de l'abandon.
Merci Carlo Ossola. Votre livre est aussi l'éloge de la discrétion.
Oui. Discrétion qui impose plus de silence que de parole.
Merci Carlo Ossola. Il faut absolument lire ce livre, Les Vertus communes, un livre publié aux éditions Les Belles Lettres. Je vous remercie d'être passé de Dante à Leonard Cohen dans la même émission. C'est magnifique.
Ouais, ils ont quelque chose de commun. Tous les deux se sont rendus au ciel. Donc c'est une belle manière de les mettre ensemble.
Merci. Idée réalisée évidemment par Vanessa Rovensky. Vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante.
Idée au pluriel @rfi.fr.
Je Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour une semaine d'actualité et dimanche pour de nouvelles idées. Dans un instant, toute l'actualité du monde sur RFI.